Le projet de réforme constitutionnelle sur la Nouvelle-Calédonie sera examiné cette nuit pour nous à l'Assemblée nationale. Et le FLNKS réaffirme sa position contre l'accord de Bougival. La hausse des prix à la pompe se fait déjà ressentir. Plus de 20 francs supplémentaires par litre pour l'essence et le gazole. Et une nouvelle augmentation est à prévoir le mois prochain. À Kouaoua, l'activité minière sur le site de la SLN est totalement à l'arrêt. En cause, un collectif qui bloque les accès au centre. La semaine du numérique proposée dans les collèges et lycées du territoire. Au programme, découverte de l'intelligence artificielle, la cybersécurité ou encore les métiers du numérique. Le sport, les Calédoniens brillent à l'étranger. Nino Durand est monté à 2 reprises sur le podium lors des championnats d'Australie de cyclisme sur piste. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. C'est cette nuit pour nous. Il sera 16h à Paris et 2h du matin à Nouméa que l'Assemblée nationale débutera l'examen du projet de réforme constitutionnelle sur la Nouvelle-Calédonie. Un débat sous haute tension pour un texte qui a été rejeté la semaine dernière par la commission des lois de l'Assemblée. Elisabeth Noir.
Il s'agit du projet de loi constitutionnelle qui doit inscrire dans la Constitution l'accord de Bougival et l'accord complémentaire Élysée-Oudinot. Les débats sont prévus pour durer 3 jours, mais l'adoption du texte est très mal engagée. Il doit faire face à une opposition qui vient tant de la gauche que du Rassemblement national et il est donc difficile de trouver une majorité. La gauche a choisi l'obstruction avec plus de 3000 amendements, 3159 exactement, qui ont été déposés par LFI et par le groupe communiste dans lequel siège le député Emmanuel Tchibaou. Autant dire qu'il sera impossible de les examiner, même en 3 jours. La gauche qui s'oppose à la réforme parce qu'elle ne fait pas consensus en Nouvelle-Calédonie en raison de l'opposition du FLNKS, mais par ailleurs une délégation de l'UNI qui soutient Bougival est actuellement à Paris pour faire du lobbying auprès des députés. Il faut rappeler que le texte prévoit notamment une consultation des Calédoniens sur l'accord de Bougival, un report des élections provinciales à la fin de l'année et une ouverture du corps électoral provincial, autant de dispositions que refuse le FLNKS. Mais avant même l'examen du texte et des multiples amendements, les députés devront se prononcer sur une motion de rejet qui a été déposée par le groupe communiste. Et selon les dernières informations, le Rassemblement national, qui est lui aussi opposé à la réforme constitutionnelle, mais pour d'autres raisons, le Rassemblement national donc s'apprêterait à voter cette motion de rejet qui sera défendue dans l'hémicycle par Emmanuel Tchibaou. Un vote décisif de la part des députés du Rassemblement national parce qu'il permettrait, avec les voix de gauche, de rejeter le texte. Dans ce cas, le projet de loi constitutionnelle ne serait même pas examiné par les députés. Il serait renvoyé directement vers le Sénat en seconde lecture. Cela donnerait un délai supplémentaire et permettrait peut-être de trouver un compromis ou un accord à minima avant les élections provinciales pour ouvrir au moins partiellement le corps électoral. Mais vous le voyez, beaucoup d'incertitudes autour de ce projet de loi constitutionnelle. Nous en saurons plus dans la nuit ou demain matin dans le journal de 6h30.
Et à quelques heures de l'examen par l'Assemblée nationale du projet de loi constitutionnelle, le FLNKS réaffirme ses positions. Il répète son opposition à l'accord de Bougival et à la modification du corps électoral. Et il réclame l'organisation des élections provinciales dès le mois de juin.
Le FLNKS dénonce l'entêtement de l'État qui veut faire avaliser par le Parlement un accord qui ne fait pas consensus. C'est l'impartialité de l'État et le consensus qui ont construit la paix en 88 et en 98, rappelle Recoimitant, qui se réfère aux accords de Matignon et à l'accord de Nouméa. Et il reproche à Emmanuel Macron de s'être éloigné de cette méthode en dénonçant un mensonge d'État autour de l'accord de Bougival. Le FLNKS réaffirme donc son opposition à Bougival et à l'accord complémentaire Élysée-Oudinot et il réclame à la fois le retrait du projet de réforme constitutionnelle et l'organisation au plus vite des élections provinciales avec un corps électoral gelé. Et Recoimitant affirme que si le FLNKS n'est pas entendu, il y a danger.
Ce que nous disons, nous, le FLNKS, attention, vous allez toucher, c'est comme si vous touchiez un tabou, là. C'est-à-dire, vous sortez du cadre. En sortant de ce cadre-là, c'est la porte ouverte à tous les dangers. Tous les dangers, absolument tous les dangers. Donc, il faut arrêter à un moment donné. C'est le message qu'on passe, un message fort que nous adressons aux parlementaires et puis évidemment au gouvernement. Il faut qu'ils voient sa copie, parce qu'ils sont complètement à côté du cours de l'histoire.
Le FLNKS qui met donc la pression, mais il dénie toute responsabilité dans les violences insurrectionnelles en affirmant que la responsabilité de l'État est engagée dans les événements liés au 13 mai 2024. Des propos relayés par le président du FLNKS, Christian Théin, qui dénonce pour sa part un manquement à la parole de l'État. Un message destiné à l'État et aux parlementaires, déclare pour sa part Gilbert Thuénon.
Le FLNKS rejette totalement ce projet d'accord de Bougival, mais aussi avec ses compléments de l'Élysée et Oudinot. Désormais, nous ne nous attendons qu'une seule chose, et c'est que nous organisons des élections provinciales le plus rapidement possible, c'est-à-dire comme le prévoit la loi organique de 2025, avant le 28 juin 2026.
Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas de consultation des Calédoniens sur le projet d'accord de Bougival?
Parce qu'on estime que c'est encore une feinte politique supplémentaire. S'il fallait consulter les Calédoniens, il fallait le faire avant. Il fallait le faire avant de vouloir bouger le corps électoral, ce qui ne s'est pas passé. L'État avait pris sa responsabilité à ce moment-là, sans entendre les alertes du front à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, qu'on ne s'adresse pas à l'Assemblée nationale, on veut venir consulter les Calédoniens. Mais on dit simplement que c'est un jeu malsain, c'est un très mauvais jeu. Et surtout, il ne faut pas essayer, une fois de plus, de diviser les Calédoniens, de lever les Calédoniens les uns contre les autres. Il faut aller maintenant aux élections provinciales pour qu'on légitime de nouveaux responsables pour pouvoir parler de l'avenir de notre pays. Un avenir que nous voulons avec un projet durable pour l'ensemble des Calédoniens, qui puisse garantir la paix, la stabilité et le développement économique de notre pays. Voilà la voie que nous cherchons. Et nous avons toujours dit, nous sommes prêts au dialogue. Le FLNKS est prêt au dialogue, pourvu que ce soit un dialogue équilibré avec l'ensemble des partenaires.
Le FLNKS hausse donc le ton à quelques heures du début des travaux de l'Assemblée nationale. Il se réfère par ailleurs aux élections municipales qui prouvent, selon lui, que 3 électeurs indépendantistes sur 4, au moins, sont contre Bougival.
Les indépendantistes très mobilisés avant l'examen du projet de loi constitutionnelle par les députés. Le président du groupe UCFLNKS au Congrès, Pierre Chanel Tutugoro, rend public une lettre de 4 pages qu'il adresse aux parlementaires. Il appelle leur attention sur la portée exceptionnelle du projet de loi constitutionnelle et en particulier de la modification du corps électoral des élections provinciales. Il appelle les députés à rejeter un projet de loi qui ne fait pas consensus en affirmant que cela conditionne la stabilité politique, la confiance entre les partenaires et plus largement la paix civile. Fin de citation. Et aujourd'hui a eu lieu une manifestation à Koné. 250 personnes, selon la gendarmerie, étaient réunies devant l'hôtel de la province Nord et manifestaient contre le dégel du corps électoral. Hier, la manifestation organisée par l'association Un cœur, une voix pour demander au contraire le dégel du corps électoral avait rassemblé entre 3 500 et 4 000 personnes devant le Haut Commissariat.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu, notre question du jour. L'association Un cœur, une voix a-t-elle raison, selon vous, de saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour faire condamner la France en raison du gel du corps électoral? Si vous pensez qu'elle a raison, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31-46. La réponse à notre question d'hier, 98% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS disent que l'augmentation des prix à la pompe va les obliger à surveiller leur consommation de carburant. Ils ne sont que 2% à dire que ce ne sera pas le cas. Restons sur l'augmentation du prix des carburants. L'augmentation est effective depuis la nuit dernière, minuit, plus 23,70 francs le litre pour l'essence et plus 25,50 francs pour le gazole. Une hausse significative comprise entre 15 et 19% qui ne passe pas inaperçue auprès des automobilistes. Depuis l'annonce des nouveaux prix, nombreux ont été les usagers de la route à se rendre dans les stations-service pour faire le plein, constate l'un des employés de la station Shell Victoire à Nouméa.
Hier, on a fait pas mal. Je ne peux pas vous dire combien on a fait, mais on a fait beaucoup, hein. Plus que d'habitude, quoi. Il y a eu du monde parce que ben, comme ça allait augmenter à minuit, là, du coup, ben, toutes les personnes sont déplacées jusqu'ici, là. Avant minuit, quoi, du coup, c'était chargé, quoi. Hein. Jusqu'à tard le soir, jusqu'à 23h, 59. Hein. Là, il y en a moins, là, mais après, je ne sais pas comment ça va se passer. Hein. Parce que tout le monde est passé hier, normalement.
Les nouveaux tarifs sont entrés en vigueur ce matin et à l'heure de passer à la pompe, les automobilistes affichaient une mine bien sombre face à cette hausse.
Ça va avoir un impact sur nous, on roule tous les jours. Donc moi j'habite au Mont d'Or, tous les jours je descends 2-3 fois des fois, là ça va être dur quoi.
En ce moment oui, c'est très dur donc on va être obligé de faire avec. Voilà ce que j'ai envie de dire, mais bon. On va rouler moins, ça c'est sûr. On va essayer de s'occuper autrement.
Disons que là, la paie vient de tomber, donc ça va, on voit pas trop la différence. Mais quand ça va être la dé, je pense que ça va se sentir.
C'est déplorable de voir que la situation mondiale fait qu'on soit impacté en Calédonie. Surtout une telle hausse soit importante de plus de 10% quand même. Hein.
On subit en fait ce qui se passe en dehors de la Nouvelle-Calédonie, Moyen-Orient en conséquence. J'espère juste que le gouvernement et les autorités vont peut-être faire comme en Australie, les transports en commun gratuits et desservir un peu plus aussi les quartiers. Là, moi, j'ai fait le plein. J'ai vu une petite différence, mais c'est vrai que je raccourcis maintenant mes trajets et je fais beaucoup plus attention.
Nous, ça va nous impacter, comme c'est la livraison. T'as. On tourne beaucoup par mois, je dois faire deux pleins. Mais je crois que là, ça va être pire. Hein. C'est que le début. Hein.
L'essence s'affiche donc désormais à 174 francs 80 le litre contre 151 francs 10 le mois dernier et le gazole à 160 francs 80 contre 135 francs 30 au mois de mars. Et attention car même si aucune pénurie n'est prévue, une hausse des carburants est encore à prévoir le mois prochain. L'augmentation du prix des carburants est-elle une conséquence directe du conflit au Moyen-Orient? Quels pourraient être les autres secteurs impactés? Comment lutter contre une hausse annoncée de certains prix en raison de cette guerre? Nous en parlerons demain dans les Jeudis de l'économie. Jean-François Bodin recevra notamment René Ferré, le directeur général de Shell Pacifique, John Chupit, le directeur de la DAE, la Direction des Affaires Économiques du Territoire, et Frédéric Pierson, président du SPADET, syndicat professionnel des agrés en douane et des transitaires. Autre rendez-vous sur notre antenne avec 200 nouveaux cas par an. Le cancer du sein est l'un des trois cancers les plus fréquents sur le territoire. Le pôle oncologie de la clinique Coindomanien vient d'accueillir une mission médicale dédiée à la reconstruction mammaire en partenariat avec l'Institut Gustave Roussy de Villejuif. Quelles sont les avancées récentes en matière de reconstruction mammaire? Cette mission va-t-elle aussi permettre de former les équipes et d'accroître leurs compétences locales. Notre invitée demain matin à 7h30 sera le docteur Françoise Rimarex, chirurgienne plasticienne reconnue, spécialisée en cancer du sein. Elle est aussi la directrice médicale de l'Institut Gustave Roussy. Quel avenir pour la mine de Kouaoua de la SLN alors que le convoyeur qui permet de descendre le minerai est hors d'usage, victime d'incendies à répétition? C'est cette fois-ci la construction d'une piste de roulage qui menace l'activité du site, Jean-François Bodin.
Pour descendre le minerai vers la mer, puis pour effectuer son chargement vers Doniambo, la SLN a finalement décidé, avec les autorités concernées, de construire une piste de roulage dédiée. Une entreprise est donc arrivée sur les lieux hier lundi pour débuter le travail, mais elle a été empêchée d'accéder au chantier par un collectif. Pourtant, la construction d'une nouvelle piste de roulage est la seule solution pour descendre le minerai, explique Guillaume Curec, le directeur général de la SLN.
Nous souhaitions dans un premier temps passer par la route provinciale. Elle est malheureusement dans un état qui ne permet pas de faire du roulage minier. De plus, il est beaucoup plus sécuritaire de pouvoir faire du roulage sur une piste dédiée, comme ça se fait sur beaucoup de mines, et donc sur conseil de nos différentes parties prenantes, on a engagé un investissement important pour faire une piste dans la plaine, le long de l'ancien tracé de notre convoyeur, permettant d'isoler complètement le roulage et de ne pas impacter les différents riverains. Donc ça, c'est la situation à laquelle on doit faire face aujourd'hui. Il n'y a pas de revendications qui nous ont été exprimées, que ce soit en matière d'environnement ou en matière d'explication sur les raisons du blocage pour le pont, si ce n'est de nous demander de passer par la route provinciale, qui ne nous semble pas, à nous et à nos différentes parties prenantes, une bonne solution.
Ce blocage est donc un énième empêchement pour la SLN d'exploiter le minerai de sa mine de Kouaoua pour le descendre jusqu'à Doniambo. Des décisions pourraient être prises demain.
On se réunit demain avec l'ensemble du comité de direction, avec le chef de centre de Kouaoua, pour prendre la décision la plus raisonnable possible, en espérant que d'ici là, les différents contacts en cours, avec l'appui notamment de la mairie et du district, puissent aider à trouver des solutions à la problématique actuelle. On est dans une situation où, depuis des semaines, on a prévenu qu'il fallait vraiment pouvoir démarrer ces travaux, que c'était maintenant essentiel pour prolonger l'activité sur le site. On ne peut pas continuer à payer plus d'une centaine de salariés sans avoir la moindre production. Je pense que n'importe quel entrepreneur peut bien le comprendre. Et déjà, la question est plutôt comment on a pu maintenir ça pendant 2 ans. Et on a vraiment tenu à faire cet investissement social. Là, aujourd'hui, on est au bout. Si on ne peut pas commencer la construction de la route de roulage, ça veut dire qu'il n'y a pas de raison d'être à notre mine.
Et pour faire face à cette nouvelle situation de blocage, 200 personnes ont pour l'instant été placées en congé payé forcé.
L'hôtellerie au bord du gouffre, les établissements n'atteignent aujourd'hui que 10 à 20% de taux de remplissage. Le tourisme s'est effondré après 2024. Le ralentissement des usines pénalise aussi la clientèle business. L'Union des hôtels de Nouvelle-Calédonie se réunira vendredi pour évoquer cette situation. Certains professionnels du secteur craignent des fermetures d'établissements dans le courant de l'année. Quant à la situation des hôtels dans les îles, elle sera examinée le 23 avril par le tribunal du commerce. En bref, en fin de matinée, un camion frigorifique qui transportait de la viande s'est renversé sur le côté au niveau du rond-point de l'arène du sud de Païta. L'accident a créé un embouteillage pendant plusieurs heures. Plus de peur que de mal, le conducteur n'a pas été blessé et la circulation est de nouveau fluide. Et notez que la circulation sera, elle, perturbée demain sur Wailou. Un camion de béton est actuellement bloqué dans la rivière de Perlou. Son évacuation nécessite la fermeture de la RT3 demain à partir de 8h. Plusieurs équipes seront mobilisées, y compris la gendarmerie. L'opération devrait a priori durer 3 heures. La DI3T s'excuse pour la gêne occasionnée. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie veut optimiser le dispositif d'affectation de la fiscalité. Il a adopté ce matin un avant-projet de loi du pays en ce sens. Elle poursuit un double objectif, nous a dit Christopher Gigès, en charge notamment de la fiscalité au gouvernement. Le premier, c'est une meilleure gestion des deniers publics.
Aujourd'hui, on a des taxes affectées à différents établissements publics, mais sans réel contrôle de la part de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir chaque année une décision de la part du Congrès de dire bah, si cet établissement public a besoin de moins, on peut le réaffecter sur des budgets prioritaires et donc d'avoir un meilleur pilotage des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie. Ce texte, il vient aussi créer un budget des comptes sociaux. Aujourd'hui, on avait des subventions ou des budgets de reversement qui étaient affectés aux comptes sociaux. Là, on a un budget qui est dédié à cette partie qui est certainement la plus grosse partie aujourd'hui, à la fois sur le RUAM, les retraites, le chômage, le régime handicap et dépendance, et qui va nous permettre de mieux piloter les budgets de la Nouvelle-Calédonie.
Cet avant-projet de loi du pays doit ainsi permettre d'avoir plus de souplesse et de transparence, mais pas seulement.
Plus de souplesse et surtout plus de transparence et plus d'obligations également pour nos établissements publics puisque les différentes collectivités ont ces dernières années, ces derniers mois fait beaucoup d'efforts et parfois on avait des établissements publics qui avaient leurs taxes affectées et qui considéraient qu'eux étaient pas concernés par ces efforts et donc pouvaient continuer à bénéficier de leurs taxes affectées sans réelle contrepartie vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie. Donc il y a une volonté à la fois de souplesse de pilotage mais également de transparence et d'efficacité de la Nouvelle-Calédonie dans la gestion de ses finances.
Christopher Gigès en a profité également pour revenir sur le projet de réforme de simplification administrative. Une loi du pays est actuellement soumise au Congrès. Elle prévoit notamment la création d'un registre unique des entreprises. Mais le gouvernement souhaite aller plus loin et pour préparer le second volet de cette réforme, il lance une consultation en ligne destinée aux acteurs économiques, nous dit Christopher Gigès, porte-parole du gouvernement.
On a lancé une campagne de consultation des entreprises au sens large pour les interroger sur les démarches administratives qui sont trop complexes, les normes qui sont parfois inutiles et rien de mieux que consulter directement les entrepreneurs sur le sujet. On a une première loi de simplification qui est sur le bureau du Congrès, qui va créer un registre unique des entreprises, le droit à l'erreur pour l'ensemble, plus différentes choses. Mais on souhaite aller beaucoup plus loin. On a une complexité de l'administration, une accumulation des normes qui embête, pour pas dire autre chose, les entreprises et qui nuit à la croissance. Et donc, on veut vraiment aller très loin sur cette partie.
Le formulaire est accessible en ligne à l'adresse decat.gouv.nc. Il est 18h, passé de 3 minutes. Première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité et notamment un petit poisson d'avril qui s'est glissé dans nos informations.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Les petits plats dans les grands. Sans couvercle, chauffer l'eau prend 3 fois plus d'énergie. Et en éteignant vos appareils avant la fin, la chaleur restante termine la cuisson. Simple et malin. Toutes nos astuces sur le site EEC.
Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays. Économisons l'énergie.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS 170 059.
Info Soir, Léana Colombo.
Une cloche géante en chocolat installée sur le parvis de la cathédrale. Et oui, l'idée était trop belle pour être vraie. Comme chaque année, RRB a sacrifié avec gourmandise la tradition du 1er avril et de son célèbre poisson, Michael Juneski.
Dans nos précédentes éditions, nous vous annoncions en effet que les cacaos du Pacifique allaient installer une œuvre éphémère sur le parvis de la cathédrale. Une cloche géante en chocolat, exposée une demi-heure en raison de la température et destinée ensuite à être exposé dans un espace réfrigéré au sein de la nouvelle usine. Mais de cloches géantes au chocolat point et plusieurs dizaines d'auditeurs sont tombés dans le panneau et ils sont venus pour faire la photo insolite d'une cloche en chocolat devant la cathédrale. Il ne leur a pas fallu longtemps pour comprendre qu'ils avaient été victimes du canular du premier jour d'avril, toujours dans la bonne humeur.
Franchement, j'ai été prise complètement au piège et je suis venue pour la cloche en chocolat invisible. Ce n'est pas grave, c'est un beau déplacement parce que le parvis de la cathédrale est toujours beau et ça fait sourire. Et je pense que dans notre société, ici et ailleurs, on en a besoin vu les actualités. Merci à la cloche en chocolat du 1er avril.
C'est ma mère qui nous a expliqué les trucs et du coup, j'ai suivi ma grand-mère. Alors.
Les blagues des 1er avril, vous connaissez cette tradition, vous en faites des fois vous-même?
Oui, j'en ai fait à tous mes profs aujourd'hui.
Il y a tout de même des gens en chocolat contents d'être venus.
Oui, ça va quand même.
Bah, je me posais un petit peu la question, enfin moi j'ai même pas fait attention si c'est le 1er avril, mais je me posais un peu la question, je me suis dit bon avec la chaleur, ça m'étonnerait quoi, du chocolat. Alors bon, comme on était dans le coin, on s'est dit on va voir.
On trouve que c'est parfait, moi je trouve que c'est une très belle tradition. De toute façon, ici ou ailleurs, mais je veux dire, il faut quand même en profiter. On a tellement peu l'occasion de rire, faire quelques petites blagues. Profitons-en. Vivons, profitons-en.
Vous aviez des suspicions, c'est ça, vous me dites?
Exactement. En arrivant, je me suis dit, ça paraît surprenant. Avec trois enfants, ça aurait pu être une bonne idée. A priori, on va repartir sans rien.
Pas sans rien. On a ramené des petits quelque chose quand même.
Voilà, vous avez tout de même des petits œufs au chocolat?
Très sympa. Très sympa.
Moi, je prends la cloche au chocolat. Je pense avoir suffisamment de place dans ma voiture.
Après les poissons d'avril que m'ont donné, que m'ont collé sur le dos mes élèves toute la journée, c'était à mon tour de faire un pied de nez à la cathédrale de Nouméa. Mais j'ai bien fait de venir.
Et nous remercions à double titre les équipes des Cacaos du Pacifique. D'abord parce que la société a accepté que l'on emprunte son nom pour crédibiliser l'annonce. Et ensuite parce que les Cacaos du Pacifique ont donné des œufs en chocolat de taille normale. Cela pour donner aux auditeurs pris au piège de ce poisson d'avril. Ils sont donc repartis avec le sourire et de la douceur.
Et malheureusement, sauf surprise, il ne devrait pas y avoir d'étape du Tour de France en Calédonie en 2028. C'était notre deuxième poisson d'avril du jour. Un grand merci au président du comité régional sud de cyclisme, Ryan Lachny, qui a accepté, grâce à sa connaissance du milieu cycliste, de rendre cette information crédible, même si hélas, elle n'est qu'un poisson d'avril. Aucune demande n'a été formulée auprès de la direction du Tour de France et son patron, Christian Prudhomme, ne viendra pas non plus sur le territoire comme nous l'avions indiqué. Et pourtant, d'après les retours que nous avons eus, vous avez été nombreux à le croire. La fête de Pâques est la fête la plus importante pour les catholiques puisqu'elle célèbre la résurrection du Christ qui est le cœur de la foi chrétienne. Pâques, c'est ce week-end et les fidèles s'y préparent depuis le début du carême. C'est un temps liturgique spécial qui commence demain. Les chrétiens vont se souvenir demain, vendredi et samedi des derniers jours de la vie terrestre du Christ, sa passion puis sa mort avant de célébrer sa résurrection. Ce sont les trois jours saints, rappelle l'archevêque de Nouméa, Mgr Sioné Pouy.
C'est le triduum, ça veut dire les célébrations du Jeudi Saint, faire la mémoire de la Sainte Cène, l'institution de l'Eucharistie et puis du ministère du sacerdoce. Et puis le Vendredi Saint où le Christ va être le crucifié et puis mis au tombeau, c'est la passion du Christ. Après trois jours, c'est la résurrection, c'est la Pâque. On célèbre, on fait mémoire de l'histoire, du salut, à partir de la libération du peuple juif de l'Égypte, quand venue, naissance du Christ, et puis sa mort, les allusions, c'est la nouvelle alliance.
Demain, c'est donc le jeudi saint. Dans toutes les paroisses, des célébrations sont organisées pour se souvenir du dernier repas du Christ, au cours duquel il a institué l'Eucharistie.
RRB, il est 18h10.
Le Conseil national des barreaux en visite sur le territoire. Cette instance nationale représente les 79 000 avocats de France. Elle est présidée par Julie Couturier, qui en est à la tête depuis 3 ans, Charlotte Coulson.
Julie Couturier, qui a souhaité mettre en place une caravane des barreaux et se rendre dans les différentes juridictions pour connaître les besoins de ses confrères, et notamment dans les Outre-mer. Au cours de son séjour, Julie Couturier, la présidente du Conseil national des barreaux, a notamment rencontré le président du gouvernement, Alcide Ponga, la présidente de l'UNC, pour évoquer les formations, ou encore Ludovic Boula, le président du Sénat coutumier. Et enfin, elle a aussi visité le camp Est. Elle estime que la nouvelle prison doit absolument sortir de terre.
Les prisons françaises, c'est la honte de la République. On a des personnels et notamment des directeurs de prison qui sont des gens d'un dévouement absolument extraordinaire, parce que quand on parle de l'indignité des conditions de détention, on parle aussi de l'indignité des conditions de travail des personnels pénitentiaires. Donc là, on a visité une prison très particulière, avec des contraintes d'infrastructures qui font que la directrice de la prison et ses équipes font ce qu'ils peuvent, mais que c'est une prison qui est en travaux de manière constante. Pour reprendre l'expression de la directrice de la prison, on cautérise une jambe de bois. Une prison qui n'échappe pas au mouvement général qu'on observe de surpopulation endémique. Là, pour le coup, c'est pas une particularité ultramarine. En effet, il faudrait urgemment construire un autre établissement pénitentiaire, mais la question foncière aujourd'hui n'est pas résolue.
Julie Couturier, la présidente du Conseil national des barreaux, a quitté le territoire hier soir et va pouvoir porter les dossiers calédoniens à Paris.
La justice est forte lorsqu'elle est crédible. Les élus de la commission permanente du Congrès étaient réunis ce matin pour rendre un avis sur le projet de loi sur l'exécution des peines. Un projet de loi national qui pourrait être étendu à la Nouvelle-Calédonie et qui vise à assurer une exécution rapide et certaine des peines, tout en limitant les aménagements et les recours au sursis pour éviter leur banalisation. Un incident technique sur la messagerie Canel, incident qui s'est produit en interne lors d'une intervention technique et qui a affecté certaines boîtes mail. Selon les cas, une partie ou la totalité des messages reçus et ou envoyés ont été supprimés. Les messages touchés n'ont pas pu être restaurés. Canel précise bien qu'il ne s'agit pas d'un piratage. Tous les abonnés ont été prévenus par mail. Le service client est néanmoins joignable au 24 38 70. 24, 38, 70. Dans les collèges et les lycées publics du territoire, la semaine du numérique a débuté lundi. Il s'agit de la 6e édition de cette opération, Michael Juneski.
Oui, des ateliers sont organisés donc pendant 5 jours. De nombreuses thématiques sont abordées, telles que l'intelligence artificielle, la cybersécurité ou encore les métiers du numérique. Les jeunes apprécient ces apprentissages, comme c'était le cas ce matin au collège de Tuban.
Je trouve ça bien parce que ça nous permet de se remettre en question en rapport avec les attaques sur le web. Et aussi en rapport avec la génération, notre génération, parce qu'on peut remarquer que notre génération est beaucoup sur les écrans, les applications et tout. Ouais, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux, TikTok, Insta, Snap.
Moi j'aime bien, je trouve ça bien qu'ils fassent ça. Moi j'ai appris tout ce qui est école, les IA, tout ça.
Moi je trouve que c'est assez bien parce qu'on peut apprendre des choses qu'on n'a pas appris avec nos parents ou avec nos amis. Et je trouve que c'est assez important d'apprendre ça aux enfants pour pas qu'il y ait de risques de quoi que ce soit, de danger sur Internet. Il faut faire attention à tout, il faut faire attention aux boîtes mail, tout ce qui se passe sur Internet, sur les réseaux, sur nos comptes. Voilà, je trouve que c'est assez important d'en parler.
Des ateliers sont donc organisés tout au long de la semaine pour apprendre de manière ludique tous les sujets autour de l'évolution du numérique.
Moi, c'est Irma Martinez Dubla, professeure d'espagnol, chargée de mission à la DAN et espagnole d'origine. Ils ont un certain intérêt puisqu'ils ne sont pas conscients de tous les risques qu'ils prennent en utilisant Internet, surtout les réseaux sociaux qui est ce qui s'utilise le plus à cette âge-là, et surtout parce qu'on aborde ça d'une façon un peu ludique, de travail des groupes, jeu des cartes, et donc du coup ça permet d'élever des intérêts et surtout des pairs, parce qu'ils ne sont pas conscients de tous les risques qu'ils prennent en utilisant Internet. Le numérique, il prend sa place aujourd'hui dans toutes les matières et il faut qu'ils sachent s'en servir sans pour autant faire un outil qu'on doit utiliser tout le temps. Donc il faut savoir avoir les bons réflexes, que cela soit pour la cybersécurité comme les ateliers qu'on a fait tout à l'heure ou pour les quotidiens.
Des formations sont aussi mises en place pour les professeurs et les familles qui sont sensibilisées à l'importance de ce sujet. Écoutez le vice-recteur Didier Vindatich.
Les jeunes savent plein de choses sur le numérique, ils en savent d'ailleurs peut-être plus que nous, et donc il faut adapter ces connaissances. Pour le coup, là, dans le cadre de la semaine du numérique, nous avons vraiment poussé nos informations sur trois domaines. La culture numérique en rapport avec la citoyenneté, comment un adulte interagit avec l'outil informatique pour ne pas se faire piéger éventuellement. Deuxième temps fort de cette semaine, c'est la découverte des métiers du numérique, et c'est la raison pour laquelle nous avons un partenaire externe Open Cluster qui peut nous faire rencontrer des personnes qui ont des parcours professionnels dans le numérique. Aujourd'hui, il y a des métiers que nos jeunes qui ont 10 ans aujourd'hui vont exercer dans 10 ans, mais des métiers qu'on ne connaît pas encore. Et puis le troisième sujet, c'est qu'il faut s'adapter en quelque sorte aux usages avancés du numérique. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, bon, qu'on apprend à se familiariser avec, mais l'intelligence artificielle générative fait appel à des connaissances nouvelles, à des usages nouveaux. Il faut absolument aider les élèves à appréhender ce nouvel outil.
L'événement s'inscrit dans la stratégie du numérique pour l'éducation 2023-2027 et dans le plan stratégique pour l'économie numérique 2024-2027 de la Nouvelle-Calédonie.
Merci Mickaël. Juneski, 18h15, une courte pause avant de voir le sport.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
My Primer propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primer Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primer, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La fin de votre journal avec Léana Colombo.
Le sport avec du cyclisme sur piste. Nino Durand enchaîne les performances historiques au championnat d'Australie. Le pistard calédonien est monté à 2 reprises sur le podium, Léo Fichou.
Oui, et c'est le seul de sa catégorie, les moins de 15 ans, les U15, à réaliser cet exploit. Le licencié du VTT Passion NC a décroché 2 médailles de bronze. D'abord sur la poursuite individuelle, c'était lundi, puis sur la vitesse individuelle hier. Des résultats qui rendent fier son coach, le DTN de la Ligue calédonienne de cyclisme, Florian Barquette.
Deux épreuves vraiment distinctes parce que même si les mêmes coureurs étaient engagés, c'est le seul qui monte les 2 fois sur le podium ou même les 2 fois dans les 6-7 premiers. Donc ça montre bien sa polyvalence. Donc c'est super d'avoir des résultats comme ça. Tous les jeunes ont un bon comportement. C'est son premier déplacement, première fois sur un vélo en bois. Donc il montre tout l'étendue de son talent et ça vient montrer que le travail réalisé pour toute l'équipe technique que je remercie, la confiance du comité, tous les bénévoles qui œuvrent, et puis la confiance que nous apportent les jeunes et les parents. Ça envoie une très belle image de la Nouvelle-Calédonie. Il y a vraiment tous les États australiens qui sont présents, Victoria, Queensland, etc., les commissaires, les organisateurs qui viennent nous féliciter. Donc ça fait plaisir de faire des performances comme ça. Voilà, tout est permis.
Et ce mercredi, Nino Durand disputait le Kérin. Il ne s'est malheureusement pas qualifié pour la finale. Mais on signalera tout de même la belle performance d'Eden Pamar qui a terminé, lui, à la 5e place.
Merci Léo. On passe tout de suite à la météo.
Socaport Peinture vous présente la météo. Socaport Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soiti, Lunicalo pour professionnels et particuliers et des milliers de teintes disponibles. Socaport Peinture, c'est à Ducos.
Et la météo, c'est avec vous, Mouna. Ah non, poisson d'avril, c'est avec vous, Pierre.
Oui, c'est moi, Mouna, du coup, je prends le relais.
Alors, Pierre, dites-nous toute la météo.
Alors, cette nuit, après un début de soirée bien dégagé, le temps se dégagera sur le sud de la Grande Terre et l'île des Pins se dégradera sur le sud de la Grande Terre et l'île des Pins avec l'arrivée d'une bande nuageuse accompagnée d'averses. Sur les autres régions, le ciel restera largement étoilé, en particulier sur le nord. L'Alizée faiblira autour de Dineux sur la côte ouest entre 10 et 15 nœuds ailleurs. Les températures minimales, quant à elles, seront comprises entre 19 9 et 25 degrés. Demain matin, les nuages arrivés dans la nuit sur la pointe sud tarderont à s'évacuer et continueront de donner quelques averses. Sur le reste du territoire, le soleil s'imposera largement. Et ça, ça fait plaisir et c'est pas un poisson d'avril. La ligne de sud-est se renforcera entre 15 et 20 nœuds, tandis qu'il restera plus faible sur le nord-ouest de la Grande Terre, autour de 10 nœuds. Côté mer, la marée sera haute à 20h, puis basse à 2h, avant de remonter pour une nouvelle pleine mer demain matin à 8h10. Et les niveaux évolueront dans l'ordre de 1m47, 45 cm et puis 1m56. Et côté ciel, la lune montante affichera 99,6% de clair de lune, presque pleine. Elle ne se contentera pas d'éclairer la nuit. Non, non, Léana, elle lui donnera du relief, transformant le paysage en décor silencieux, suspendu dans la justesse, entre ombre et clarté.
Eh bien, merci beaucoup, Pierre. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h pour le rappel des titres. En attendant, vous retrouvez tout de suite le journal d'Europe 1, suivi à 18h30 de l'interview d'Europe 1. Ce soir, Laurence Ferrari reçoit Bruno Retailleau, président du parti Les Républicains, sénateur et candidat à la présidentielle.